Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Présence dans votre émission Vivante Église. Vous en avez l'habitude, on se retrouve tous les jours pendant une heure et aujourd'hui c'est une nouvelle émission cinéma qui vous attend. Et pour m'accompagner, les deux spécialistes cinéma de la radio, Louis-Marie Solaire à la tête de l'ouvreuse présence, l'émission cinéma de la radio depuis 36 ans. Vous avez d'ailleurs fêté la 1500e il y a quelques jours. Et Paul Dima, ancien formateur à l'ISCAM et l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Timothée, bonjour à tous.
Bonjour Timothée, bonjour à tous.
Et le premier film, messieurs, dont nous allons parler, c'est La Conspiration du Caire, un film de Tariq Saleh en salle actuellement. Le film raconte l'histoire d'Adam, simple fils de pêcheur, qui intègre la prestigieuse université d'Al-Azhar au Caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le grand imam, à la tête de l'institution, meurt soudainement. Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuses et la politique du pays. Ça fait envie, cette présentation.
Oui, ça fait envie, oui, évidemment. Ça fait envie d'autant qu'on attend toujours, maintenant, avec impatience, les réalisations de Tariq Saleh. Et pour cause, en peu de temps et en peu de films, et il marque les esprits du cinéma Tariq Saleh à peine 50 ans. Je dis à peine 50 ans parce que à cet âge-là, il a déjà eu 1000 vies, ou presque, et j'exagère évidemment, mais il est d'origine égyptienne par son père, mais il est de nationalité suédoise. C'est important.
Hein, ça compte beaucoup.
Ça compte beaucoup. Et avant de devenir cinéaste, il a été graffeur, directeur artistique. Il a même géré et été directeur de publication d'un magazine documentaire. Puis il a fait du cinéma documentaire, a coproduit des films, notamment un qui concerne Che Guevara et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui s'intitule, je vous donne une traduction à peu près approximative, il vaut mieux que mon anglais, qui a trahi Che Guevara, tout simplement. Et 5 ans plus tard, il parle de ce qui se passe au camp de Guantanamo dans son documentaire aussi. Vous voyez qu'il ne cherche pas la facilité. Et maintenant, après Le Caire confidentiel, qui était son précédent film, qui n'a pas à voir en fait avec celui-ci, il réalise donc La Conspiration du Caire. Notez que le lendemain du jour où il commençait le tournage, je crois que c'est le lendemain du jour où il commençait le tournage de Le Caire confidentiel, les autorités égyptiennes l'ont invité à quitter le pays.
Ah oui, carrément.
C'est vous dire si ces films sont très attendus en Égypte. Et pour cause, avec les sujets, celui dont vous venez de parler, Timothée, il y a de quoi faire. Et il y a de quoi critiquer ce qui se passe justement, la collusion entre politique et religion.
Tout à fait, politique, armée, religion. Et c'est toute la trajectoire du film qui est portée par la rencontre d'un capitaine, je ne sais plus quel est son grade, au service de l'État et de l'armée, et qui jette son dévolu sur ce jeune Adam qui arrive de sa campagne égyptienne, où il était pêcheur, fils de pêcheur, accompagnant son père à la pêche, qui découvre le Caire et qui découvre aussi toute l'ambiance qui règne dans la grande mosquée d'Al-Azhar, qui est le lieu de prestige de formation de futurs imams.
C'est un établissement d'autant plus prestigieux que lui vient de sa campagne. Et alors, ce qui est la force du film de Tariq Saleh, c'est que avec ce dont on vient de parler à l'instant, ce jeune homme qui vient de sa campagne, d'un milieu populaire s'il en est, c'est qu'on pense qu'on va avoir affaire à un récit initiatique. Un jeune homme qui sort de sa condition, qui s'élève et qui intègre une école extraordinaire, prestigieuse, et puis petit à petit, on s'en va du côté du thriller. Alors, c'est là où Tariq Saleh arrive à nous faire quelque chose de fort, parce que son personnage d'Adam, il va d'abord connaître l'école, le milieu, puis après les méandres de policières, puis après l'activisme, puisqu'il va avoir à faire un groupuscule
d'extrémistes,
ouais, de frères musulmans, hein. et tout ça en peu de temps. Et il va se demander ce qu'il peut bien faire au milieu de ça. En fait, il a même pas le temps de se le demander, puisqu'on lui demande d'agir tout de suite. C'est là que le cinéaste Tariq Saleh arrive en... Il empoigne son histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il nous met là-dedans. Comme ça, on arrive, on découvre. On est un peu comme, j'allais dire, ce Candide. Il est plus Candide en très peu de temps. Hein.
Oui, parce que on peut se dire, mais il va se faire avoir complètement. Et puis, chemin faisant, sans tout dévoiler... On s'aperçoit qu'il n'est pas si naïf que ça. Alors bien sûr, il découvre tout, la vie au Caire, avec la vie nocturne qui est extrêmement loin du contexte de son village natal, avec un côté sympa, mais en même temps, cette école de futur imam, c'est un lieu où tout le monde surveille tout le monde et il y a des tendances différentes. Et très vite, il se rend compte qu'il est le jouet un peu entre les mains de quelqu'un qui lui donne des ordres pour servir de taupe et s'infiltrer dans des milieux musulmans subversifs par rapport au pouvoir en place. Et derrière le colonel, c'est un colonel qui lui donne les ordres, eh bien, il y a à la fois le plus haut niveau de l'État, l'armée, etc. Et on se dit, mais il va y passer, quoi. Il va pas s'en sortir.
Oui, parce que il a affaire à quelque chose qu'il dépasse complètement, qu'il découvre. Il pouvait pas imaginer une seule seconde que ça se passait comme ça. Simplement, oui. Que le pouvoir, eh bien, il est disputé entre les autorités politiques et les autorités religieuses. Et qu'est-ce qu'on va... On peut se demander que finalement, on se demande, et lui, il se demande, le spectateur avec lui, mais comment se fait-il que deux entités, deux pouvoirs différents, si on peut qualifier de pouvoir religieux, peuvent... Enfin, c'est pas le pouvoir, mais parce que comment ces deux entités qui, malgré tout, devraient être...
Distinctes, au moins.
Et en tout cas, l'une d'entre elles, la religieuse, se préoccuper de religion, comment les deux peuvent se disputer, en fait, le pouvoir. C'est là où je me méprenais en parlant de pouvoir religieux et de pouvoir politique. C'est le pouvoir qui est... sur lequel veulent mettre la main à la fois les autorités politiques, à la fois les autorités religieuses.
Alors, on voit que le piège qui est tendu à ce jeune Adam, il n'est pas si naïf que ça, il est très intelligent, et progressivement, il va trouver des contournements, en même temps il faut qu'il fasse semblant d'obéir, et qu'il obéisse aussi, parce qu'autrement il se fait éliminer. C'est-à-dire que les ordres qui lui sont donnés, c'est pas si tu veux, hein, et tous les coups sont permis. Et il y a des meurtres, enfin bon, il y a des choses dures. Il se fait piéger lui-même dans une réunion, on lui demande de téléphoner parce qu'il s'est baladé avec un livre qui conteste le pouvoir musulman tel qu'il est prôné par les hautes instances religieuses, et donc il passe pour un traître et il doit téléphoner en direct à son oncle qui aurait été un libraire qui lui aurait donné le livre, et puis en fait, quand il lui téléphone, l'interlocuteur ne voit pas de quoi il veut parler, et donc là il devient suspect. Donc le spectateur est pris complètement comme Adam dans un étau dont on se demande toujours comment il va faire pour s'en sortir. Et puis, intelligemment, il avance pion par pion pour satisfaire ou tromper les uns et les autres et arriver à tirer son épingle du jeu sans complètement faillir non plus à une sorte de de rigueur, d'idéal même presque, on pourrait dire.
À ce titre d'ailleurs, le titre français a été choisi par rapport à ce que décrit le film, et puis aussi les distributeurs français ont pensé au précédent titre, hein, on disait Le Caire confidentiel, la conspiration du Caire. Pour les spectateurs français, ça rappelle le film qui a eu beaucoup de succès, qui a rencontré un public qui, évidemment, en sachant que ce réalisateur allait arriver avec ce film-là, vont le voir. Si c'est du même niveau, on va pas rater ça. Et c'est pour ça que le titre original est un titre anglais, évidemment. Oui. Et le titre original, c'est Boy from Heaven. Le garçon qui vient du paradis. Et c'est beaucoup plus éclairant, en fait, sur le propos même du film, puisque c'est Adam, le personnage central. Oui. Et il s'appelle Adam. Oui. Et il arrive du paradis. Hein, et le paradis, qu'est-ce que ça peut bien être? La question est là. Et en tout cas, avec ce dans quoi il est enfermé, le spectateur, eh bien, va voir que, comme le disait justement Paul, il va s'en sortir. On va le voir grandir, on va le voir apprendre à penser, à gagner en maturité. Il va apprendre à naviguer et il est dans une position extrêmement vulnérable. En tout cas, c'est la façon dont le décrit Tariq Saleh. Mais au lieu de l'abattre, ça le confirme dans l'arrivée à l'âge adulte. Alors comment va-t-il y arriver? Que va-t-il faire de cet âge adulte? Ça, on se gardera bien de le dire. Il faut aller voir le film, mais en tout cas, il va arriver.
Un autre aspect intéressant de ce film vu par nous, Européens, Français, c'est un univers politico-religieux qu'on ne connaît pas, j'allais dire fort heureusement dans nos pays, avec la loi de séparation des églises et de l'État, et où il y a des relations qui se jouent, mais pas au point de faire des collusions, c'est-à-dire que l'État ne donne pas d'ordre à l'Église et l'Église ne donne pas d'ordre à l'État. C'est voilà, chacun dans son domaine, les Églises, pardon, pas seulement l'Église, les Églises. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas conflictuel de temps en temps, parce qu'il y a des prises d'opposition, il y a... qui concordent pas, on le voit bien en ce moment, les débats autour de l'euthanasie, etc. Voilà. Mais chacun est dans son domaine et légitime dans son domaine. Et pour nous occidentaux, et on y est habitué, c'est chacun dans son camp, l'un pouvant interpeller l'autre. Là, c'est l'État, l'organisme qui s'appelle la Sûreté de l'État. C'est clair, qui essaie de se mettre de son côté les chefs religieux pour aller dans une direction qui permet d'échapper à l'extrémisme religieux. Donc on peut dire c'est intéressant, c'est la variable d'ajustement, c'est-à-dire que la religion est la religion officielle et en même temps faut pouvoir s'appuyer sur elle pour que ça fasse pas n'importe quoi. Ce qui permet de faire des stratégies souterraines qui sont complètement plus que borderline, c'est-à-dire qu'on élimine, on piège les gens.
Alors, je parlais de récit initiatique, de thriller, parce qu'il y a ça. Oui. Dans le film, il y a ça, le thriller, il y a des meurtres, il y a des enquêtes, il y a des manipulations. On est au cœur d'un film qui pourrait être un film noir. D'ailleurs, Tariq Saleh situe son film, ce sont ses propos, donc il situe son film entre Le Nom de la Rose et le cinéma américain des années 70, ce cinéma paranoïaque au moment... On sortait à peine de la crise des missiles de Cuba et le cinéma américain est traversé de toutes ces choses qu'il redoutait et qu'il mettait en scène. Eh ben, il y a de ça dans le film là. Il y a effectivement cet homme d'église comme celui d'Umberto Eco, qui enquête sur une mort suspecte. Et ben là, la mort n'est pas suspecte, mais c'est ce qui arrive autour qui est plutôt suspect. Et ce qui est très fort aussi, c'est que l'écriture, elle est divertissante aussi. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir à voir ce film. Il faut pas. Le sujet est difficile, le sujet est dur, mais c'est du cinéma. C'est du cinéma et du grand cinéma. Oui. C'est, on est, pour continuer les références, il y a quelque chose de John le Carré, quoi, de ces grands films, ces grands romans d'espionnage et ces grandes adaptations de romans de John le Carré à l'écran. On est là-dedans aussi, avec ces manipulateurs qui finalement s'avéreront moins forts que ceux qu'ils pensaient être des petits seconds couteaux. Qui s'avère être beaucoup plus malin qu'eux.
Oui, oui, oui. Et c'est aussi très, très bien filmé. Il y a une alternance de rythme des séquences, mais d'échelle de plans. On a des grands plans d'ensemble, des plans généraux, avec des grandes manifestations de 300 000 étudiants, des choses comme ça. Et puis, on a des plans très rapprochés, à des moments de tension, si bien que, comme spectateur, ça dure 2 heures, mais on ne voit pas le temps passer, parce que on est sous tension, nous aussi, et on joue le jeu parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
C'est ce que je disais à l'instant, on se laisse embarquer, quoi. On est spectateur et on marche. Et on se pose toutes les questions, évidemment que les questions qu'a soulevé Paul, mais on reste dans cette histoire, on est avec Adam et on se demande comment
ça va bien pouvoir se terminer.
Ce gamin va s'en sortir, parce qu'il reste quand même un tout jeune homme, et confronté à des choses dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Oui.
On voit que vous avez pris beaucoup de plaisir durant ce film. C'est un film qui a été récompensé du prix du meilleur scénario au Festival de Cannes.
Bah, c'est largement mérité, on parlait de l'écriture, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien écrit. Sans cette écriture, il n'y aurait pas ce qui se passe devant la caméra, quoi. C'est, il est d'une maîtrise incroyable. Il a pas signé le scénario tout seul, si, tout seul.
Oui, tout seul.
Qu'il l'avait co-signé, oui. Non, il a signé le scénario tout seul, Tariq Saleh, et il s'en sort diablement bien.
Alors, si vous voulez connaître la fin, il faudra venir le voir.
Bien oui. Ben
oui. Alors, il y a une séance ciné-parole au cinéma ABC le mardi 15 novembre à 14h30, qui sera précédée d'une présentation du cinéaste, du réalisateur, comme on vient de le faire, et suivie d'un débat, comme vous le ferez.
Effectivement, on espère qu'il soit animé. Il y aura des choses à dire, en tout cas, c'est sûr.
Messieurs, pour clôturer sur ce film, parlons un petit peu du lieu où ça se passe. On a l'impression que ça a lieu en Égypte, mais pas du tout, Paul Dima.
Alors oui, ça se passe, l'histoire se passe en Égypte, mais on a bien compris que le réalisateur n'a pas trop intérêt à essayer de remettre les pieds en Égypte, parce que là, il signe quand même une charge assez féroce de la collusion des pouvoirs. Enfin bon, il n'a pas intérêt à y retourner. Donc ça a été filmé dans la grande mosquée Süleymani à Istanbul, donc en Turquie. Mais c'est magnifique. Oui. Alors, ce n'est pas la grande mosquée El-Azhar du Caire.
Et pour cause, hein.
Ben oui,
Paul l'a dit, Tariq Saleh est persona non grata, c'est le moins qu'on puisse dire en Égypte.
Le casting, on a parlé du réalisateur, un peu inconnu du public français quand même.
Ah oui, oui, oui. On retiendra le nom de Tofik, ou je ne sais pas comment on dit, Tofik Barom, qui joue le rôle d'Adam. Et il y a quelques visages connus, le gradé dont on cherchait le nombre de chevrons sur la manche. Il est général, hein, c'est le général Al-Sakran, est incarné par Mohamed Bakri, il est formidable. Il y a un cheikh aveugle, Makram Khoury, qui est extraordinaire.
Magnifique.
Extraordinaire, ouais, Makram. Ouais. Retenez ce nom, Makram Khoury, J. Khoury. Bon, je sais pas à quoi correspond le J.
Le nom est noté en tout cas. Messieurs, merci beaucoup pour la présentation de ce film, La Conspiration du Caire, actuellement en salle. On fait une petite pause musicale et on revient dans moins de 4 minutes.
Radio Présence à Auch 89.6. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de Louis-Marie Soler à la tête de l'ouvreuse présence, l'émission cinéma de la radio depuis 36 ans, et Paul Dima, ancien formateur à l'ISCAM et à l'Institut catholique de Toulouse pour cette troisième émission cinéma mensuelle. Après avoir étudié la conspiration du Caire, plongeons-nous dans La Prière. C'est le deuxième film que nous allons étudier. La Prière, un film de Cédric Kahn, sorti en 2018. Alors, je vous donne quelques éléments. L'histoire raconte celle de Thomas, 22 ans, qui, après avoir failli mourir d'une overdose, est envoyé en montagne dans une communauté d'anciens toxicomanes qui compte sur la prière et le travail pour s'en sortir. Un soir, il décide de s'enfuir. En ville, il rencontre Sybille, dont il tombe amoureux. La jeune femme l'encourage à retourner dans la communauté. Grâce à l'aide bienveillante de sœur Myriam, Thomas découvre peu à peu la foi, mais il n'a pas oublié Sybille. Quand on le présente comme ça, on a l'impression que c'est une belle histoire d'amour qui nous attend.
Et ça n'en est pas une.
Pas du tout même.
Non,
c'est pas le cœur du sujet.
Non, c'est pas du tout le propos de Cédric Kahn qu'on a déjà vu dépeindre jusqu'au boutiste. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. Concernant le personnage de Thomas, en tout cas, on l'avait vu parler justement de personnages comme Thomas bloqués dans la jalousie maladive. C'était l'ennui. Oui. Incarné par Charles Berling. Il y avait le crime aussi, Roberto Succo, Stefano Cassetti, puisqu'il y avait une consonance italienne dans son film. Et là, jusqu'à présent, il peignait que des adultes. Et là, c'est un grand adolescent, un jeune adulte. Allez, parce qu'on peut dire qu'il est grand adolescent.
22 ans.
Il jeune a 22 adulte, ans. Oui. C'est un jeune adulte, mais à 22 ans, on est à l'aube de ce qu'on peut imaginer être sa vie. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, Thomas, il est très, très mal parti. Et il va découvrir ce lieu assez incroyable où, quand il va arriver, on va lui expliquer ce qui se passe. D'abord, on va lui confisquer son téléphone. Ça, c'est réglé. On va lui dire que de toute façon, il ne peut être jamais seul. Ça aussi, c'est important. Et qu'il va être mis... il va avoir un parrain. Il va être sous la tutelle de quelqu'un. Et
d'un ange gardien.
Voilà, c'est comme ça qu'il le présente.
On peut d'ailleurs écouter un extrait.
Oui.
Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Je vais te confier à lui.
Alors, on vient de l'entendre, la présentation est faite par cet homme, incarné par Alex Brendemühl, qui joue le rôle de Marco, dont on ne sait pas trop l'origine. On sait que on apprendra aussi qu'il a eu un parcours voisin des jeunes gens qui l'accueillent. Il n'est pas à l'origine de ce lieu. On découvrira le personnage plus tard dans le film, dans une scène assez extraordinaire. Il faut dire que j'ai une grande tendresse pour l'actrice qui joue le rôle de cette religieuse. Toujours est-il que Thomas rentre de plein pied dans ce lieu, mais aussi dans ce qu'il va être obligé de faire. Et ça va pas être de la tarte, parce que lui qui est toujours en colère, contenir sa colère, il va creuser. Ouais. Il va creuser au sens propre et au sens figuré du terme.
Alors, il entre de plein pied, mais avec beaucoup de rébellion, de réticence, de colère contre les autres, contre lui-même. Et il va découvrir progressivement que tous les compagnons qui sont là, tous les garçons qui sont là, ont vécu le même type d'enfer, et qu'ils sont les uns et les autres à des degrés différents du combat avec eux-mêmes, du combat contre les autres, mais qu'il y a une très grande importance donnée à être vrai avec soi, se confronter à soi-même. Et alors, on voit, il y a des moments, sous l'emprise du manque, du sevrage de la drogue, qui n'est pas quand même des petites drogues légères, hein, et de convulsions, tombées dans les pommes, révoltes violentes, du corps à corps. Eh bien, il y a justement un corps à corps qui se joue entre les différents personnages, et ils sont autorisés, au sens fort du mot autorité, ils peuvent parler parce qu'ils sont passés par le même chemin, ce qui fait que leur attitude ou leurs paroles ont du poids. Et ils encouragent, ils disent « moi aussi, je suis passé par là, c'est dur, t'as envie de partir, c'est normal, tu as envie de... » Mais voilà, tu es seul vis-à-vis de toi-même, c'est toi qui dois décider, c'est... Voilà. Alors, le parcours n'est pas linéaire, il y a des avancées, il y a des rechutes, il y a... des découragements, il y a des choses très dures, mais en même temps, il y a une solidarité réelle sur laquelle est fondée cette espèce de communauté. On pourrait croire par moments que c'est une secte, et puis le climat qui règne entre les personnes ne sont pas de type sectaire, parce qu'il y a un grand respect, une écoute les uns des autres, que le responsable n'est pas un gourou, mais que chacun est confronté à lui-même et tout est fait pour qu'il puisse avancer et s'en sortir.
C'est servi par une mise en scène pour le moins ascétique.
Oui, austère même.
Le mot convient assez. Et la caméra est là comme un témoin. Et elle est à la bonne distance pour ne pas mettre justement le spectateur trop près de ce qu'il voit, pour pas donner à cette histoire un côté romantique qu'elle n'a pas du tout. Ce jeune homme, comme l'a bien décrit Paul, il va falloir qu'il se trouve, et pour se trouver, se construire, même pas se reconstruire. Il a besoin de ce recul, il a besoin de ça, et de se frotter à cette difficulté, à ce milieu difficile et dur, qui ne le ménage pas, certes, mais qui... plus que l'entendre, l'écoute. Et ça, c'est très fort et c'est très beau et c'est très bien montré par Kahn et remarquablement interprété par ce jeune comédien dont on connaît le nom maintenant, Anthony Bajon, qui est proprement formidable dans ce film.
À l'image, on voit l'évolution de ce personnage. Il arrive, il est balafré, enfin, il est marqué par la vie. En même temps, il a un visage un peu poupon. Et puis, on le voit au cours de son itinéraire. Alors, il y a un moment charnière où il se perd dans la nature et il est perdu à tous les sens du mot. Et il prie très fort, la prière est très très présente dans ce film.
D'où le titre.
Et il y a, alors qu'il s'est blessé, il passe la nuit tout seul dans la montagne, perdu dans le froid et dans le brouillard, et le lendemain, au miracle, il peut à nouveau marcher. C'est comme ça qu'il le ressent et que nous le fait ressentir le film. Il ne se prononce pas sur le côté miraculeux du miracle. Mais il repart et il va, on assiste là à un tournant du film où il va devenir lui-même une sorte de guide aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'il rentre dans ce que propose la communauté. Il soutient un toxicomane qui arrive... qui va mourir d'ailleurs, et c'est lui qui va le découvrir mort. Donc là, c'est un choc terrible pour lui, parce qu'il croyait pouvoir le sauver lui aussi. Et il s'aperçoit que on ne peut pas à la place des autres, et qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Alors il fait une rencontre qui est intéressante, enfin d'une femme qui l'accueille à un moment de grand essai, qui le renvoie à sa communauté, et ça c'est intéressant. Et il y a une fête qui est organisée avec un groupe de jeunes femmes qui est en dehors de cette communauté-là, mais qui vient dans cette communauté-là pour un moment de fête où chacun, chacune, est invité, s'il le veut, à dire son itinéraire. Voilà, voilà d'où je viens, voilà. Alors, c'est très touchant parce que... alors, Thomas, il n'a pas trop envie d'y aller, puis il y va... Et puis à un moment, il craque, il ne peut pas continuer à faire son récit. Donc il n'a pas fini son chemin. Et il rencontre la religieuse qui est à l'origine de l'autre communauté, qui a une conversation franche et rude avec lui. Elle est en prière. Elle dit, tu veux prier avec moi? Oui. Et il dit, est-ce que tu es heureux ici? Et il dit oui, il y a tout, mais lui fiche une claque.
Elle est forte, réel, cette scène. Hein.
En disant, mais tu mens là, tu mens. Et je ne dis pas la suite, parce que faut pas déflorer l'histoire, mais elle l'invite à être vrai et non pas à dire ce qu'il est, ce qui serait convenu d'entendre.
Une scène avec Anna Chigoula,
ah, magnifique,
qui joue le rôle de cette religieuse extraordinaire, la grande Anna Chigoula, celle qui était l'actrice fétiche de Fassbinder, qui là a une scène proprement extraordinaire. On pourrait dire, allez, n'ayons pas peur, j'exagère, mais c'est un peu le climax du film, un peu l'acmé du film, c'est-à-dire ce point déterminant qui va engendrer la suite du film, ce vers quoi tend le film pour après faire évoluer son personnage. Là on y est. Et puis, il faut pas oublier un autre personnage dans le film, c'est le décor. Le décor, le plateau de Trièves, ça, alors là, c'est magnifique.
Ah, il est formidable.
Mais c'est tout aussi, difficile et dur. Hein. Paul le racontait, quand il se retrouve perdu dans le brouillard, oui, la montagne est belle, mais quand on voit plus rien, quand on est perdu, quand on sait pas où aller, quand on est blessé, comment faire? Et là aussi, tout est là. Ce décor, ces lieux, ce jeune homme qui va vivre une expérience, Paul l'a décrite quand il se perd, qui va même avoir croit qu'il a trouvé la vocation. Et on va lui dire, calme-toi mon garçon, réfléchis un peu. Et il va réfléchir. Et c'est un film formidable parce que c'est un film finalement très beau, très dur, mais positif aussi.
C'est un film qui traite de mort et de vie. Et les rites religieux qui sont vécus dans cette communauté sont un moment important dans le film, mais tout aussi important que la relation fraternelle qui existe entre eux et de vérité. Quoi. Ici, on dit vrai. Faut pas se raconter des histoires. Et cette exigence-là est du rite et du rapport entre eux permet d'aller visiter au plus profond de leur misère. Et en même temps, par exemple, un moment, le jeune Thomas est invité à lire un psaume. C'est du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Il arrive à dire ce poème. C'est-à-dire, c'est au creux même de la limite que se fait, et la scène avec la sœur dont on vient de parler là, est comme une nouvelle naissance, mais qui se fait un peu au forceps. Hein. C'est pas un accouchement sans douleur.
Mais c'est un film sur la foi, bien sûr, mais aussi et surtout sur la fraternité.
Oui.
Beaucoup, hein, c'est justement ce qui rend déchirant les adieux de Thomas, au moment où il va partir, qui part vers son destin, n'ayant pas peur des grandes images. Et au moment où il dit au revoir à ses compagnons, qui sont encore comme il l'était quand il est arrivé, ses compagnons d'infortune, c'est comme ça qu'on pourrait les qualifier. Et surtout à Pierre, son ange gardien, qui finalement, auquel il dit adieu. Et c'est d'autant plus déchirant pour eux que Pierre, lui, reste. Mmh. Il reste parce que ben, finalement, il a aidé Thomas et il lui a permis de partir. Et lui est toujours coincé. Il n'arrive pas à sortir de ça. Donc, c'est là aussi, il y a... Ça marche pas pour tous et pour tous de la même façon.
Mmh. C'est pas une histoire angélique où tout va bien à la fin. Non, c'est toujours difficile, ce parcours.
Louis-Marie, vous disiez, c'est un film positif, mais pourtant, le cœur de ce film, c'est la lutte contre l'addiction.
Oui. La lutte contre l'addiction, oui, certes. Mais justement, cette lutte, elle passe par toutes ces épreuves, par ce bras de fer, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on suit ce garçon qui finalement sort de cet endroit et sort pas pour replonger dans l'endroit d'où il vient, pas pour sombrer à nouveau, non. Alors maintenant, quel destin va-t-il choisir? Quelle voie va-t-il choisir? Ça, ça lui appartient. Et il appartient au spectateur d'imaginer ou de partir avec lui, toujours à bonne distance, c'est préférable, et d'imaginer ce qu'il va pouvoir bien choisir. Parce qu'il va choisir peut-être bien quelque chose. Mais on verra quoi. Et c'est ça qui est positif, finalement. Oui. C'est cette fin, oui, c'est dur au début, ouais. C'est dur au début, c'est dur pendant, c'est dur à la fin aussi, mais pas complètement.
Ce qui est très fort aussi, c'est qu'il y a des indices qui sont donnés au cours du film, mais rien n'est dit du devenir. Il se peut que, et il se peut que autre chose. Et ça ne nous regarde pas. C'est-à-dire que comme spectateur, on est à la fois, comme on disait tout à l'heure, un peu à distance. C'est-à-dire qu'on voit, on n'est pas pris nous-mêmes dans... alors que c'est des situations très difficiles qui pourraient nous prendre complètement. Non, on observe et chacun est libre de son itinéraire. On a vu ce qui permettait de grandir, de dépasser des épreuves. Mais le reste ne nous regarde pas.
C'est ça justement qui est dur, et moi c'est ce qui m'a marqué, c'est que on s'attache à ce personnage de Thomas, et à la fin on ne sait pas ce qu'il devient, parce que d'un côté il y a deux solutions, donc on sait qu'il ne va pas retourner vers le monde de la drogue, mais c'est vrai que c'est un peu déroutant.
Alors en plus il a un carrefour,
ah,
au
oui.
sens propre
oui.
et au sens figuré.
Et au sens figuré.
Alors, on pourra penser que l'image est facile de la part du réalisateur, mais pas tant que ça. Je trouve pas facile parce que effectivement, il met à l'image à l'endroit où se trouve pratiquement, c'est-à-dire de façon objective, l'endroit où se trouve Thomas. Il est à un carrefour, un vrai, mais aussi un carrefour de sa vie. Il va falloir qu'il trouve. Prendre quel chemin on espère que ce sera le bon.
Oui, on l'espère.
S'il y en a un bon.
En tout cas,
sommes-nous pour juger?
Oui, ah ben effectivement. Mais en tout cas, on n'est pas là pour juger, bien sûr. Mais en tout cas, qu'il ne replonge pas dans ses vieux démons. Oui. C'est surtout ça. Après, il fait comme il veut.
Parce qu'il devient libre. Dans l'histoire du film.
Il n'est plus prisonnier de son addiction.
La liberté de quelqu'un n'appartient à personne d'autre qu'à lui.
Messieurs, pour clôturer, ce qu'on peut dire, c'est que ce film, il parle de foi, mais on ne tombe pas pour autant dans du prosélytisme.
Non, parce que dans la communauté, il y a des gens qui adhèrent à cette foi qui est proposée. Il y en a d'autres qui suivent les rites religieux parce que ça fait partie du package, si je veux dire. Et chacun est libre. Chacun libre, mais il doit assister, mais on ne commande pas de croire ou ou d'adhérer.
Il doit se conformer aux règles qui sont édictées au moment où il vient et il rentre dans cet endroit. À partir du moment où il les respecte, il est aussi respecté, effectivement, ça parle de la foi, c'est pas du prosélytisme, ça parle aussi, je disais, de la fraternité, de bien belles choses.
Un petit mot sur l'acteur principal, Anthony Bajon. Louis-Marie, j'ai l'impression qu'il vous tient à cœur.
Ah oui, oui, oui. C'est un jeune acteur qu'on a vu et qu'on a vu avant ce film et qu'on a vu dans d'autres films aussi, et qui est remarquable et qui est capable de tous les rôles. Dans la tête, un de ses rôles où il a un second rôle, le premier long métrage de Sandrine Kiberlin, une jeune fille qui va bien, où il joue le rôle du frère de cette jeune fille qui est censée aller bien, où il a aussi, il est remarquable, une histoire dure, très très difficile. Et il est capable aussi de jouer la comédie. À un moment, il a joué dans un film dont j'ai oublié le titre, je suis inexcusable, j'aurais dû le préparer, où il joue le rôle d'une espèce de loup-garou. En fait, c'est une histoire assez étrange, mais en tout cas, il a un éventail très large, et c'est un acteur dont on suivra évidemment le parcours, mais qui n'a pas fini de faire parler de lui, ça c'est certain.
Paul Dima, le mot de la fin est pour vous. si vous avez quelque chose à dire pour clôturer sur ce film, La Prière.
Je trouve qu'il y a d'assez remarquable dans ce film, à la fois, parce que c'est pas facile à traiter, hein, il filme des moments de célébration, de prière, mais à la juste distance, à la bonne distance. C'est-à-dire que on voit la force du rite qui soude le groupe, qui l'oblige d'une certaine façon à être ensemble et à dire des paroles, à en entendre. Et en même temps, on voit comment ça prend place dans l'ensemble du dispositif éducatif, où chacun est conduit à devenir lui-même. Alors, c'est des cadres qui sont très contraignants, hein, et par moments, ça leur permet de s'affronter à une réalité qui résiste. Et en même temps, on voit comment chacun des jeunes fait son itinéraire avec tout ça. Et c'est une éducation à la liberté. Et je crois que par rapport à une approche de la religion ou du spirituel, c'est très intéressant de l'aborder de cette façon-là.
Et on terminera sur ces belles paroles, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à cette émission Vivante Église. Si vous voulez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission et nous parlerons du sens du travail avec Jacques Pénard de l'association ACT. Passez une très belle journée. Merci encore, messieurs, pour votre présence et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.